RMC, cours numéro 1.
Bienvenue, bienvenue sur cours numéro 1. C'est une intro très spéciale. Je suis au cœur du public et je vais vous faire vivre la balle de match de Valentin Vacherot. Il est 21h20. C'est un match exceptionnel que livre le Monégasque face à Hubert Hurkacz. Il se procure sa première balle de match. Donc, comme je suis au cœur du public, je suis à côté du COP. Ici, ils sont tous en maillot rouge et blanc. Je pense que ce sont des amis, il y a des fans, il y a des membres de peut-être du Monte Carlo Country Club. Je vais vous faire vivre cette balle de match. Je vais me taire. Vous allez la vivre. Peut-être si ça dure 35 coups de raquette, c'est pas grave. Balle de match pour Vacherot. Et c'est fait. Valentin Vacherot qui est à genoux, qui vient à bout d'Hubert Hurkacz. Extraordinaire aventure de Valentin Vacherot qui atteint les quarts de finale ici après un combat de 2h53, 6-7, 6-3, 6-4. Vous entendez la foule en délire. J'ai jamais vu autant de monde dans les tribunes du Monte Carlo Country Club à une heure aussi tardive, mais le match en valait la peine. Et puis aussi, c'est l'enfant du club, Valentin Vacherot, donc qualifié pour les quarts de finale. Il y a des gens qui s'embrassent. C'est de la pure folie ici dans les vestiaires. Incroyable, les bras levés, Valentin qui regarde le COP, qui regarde donc tous ceux qui l'ont poussé vers la victoire, parce que ça a été un match très compliqué pour Valentin Vacherot. Il a mené 4 jeux à 0 face à Hubert Hurkacz. On a cru qu'il allait en faire qu'une bouchée. Eh bien, pas du tout. Le Polonais est revenu au score avec une facilité presque déconcertante, une longueur de balle incroyable, des amortis qui faisaient mouche à chaque fois. Et finalement, il a pris le premier set, mais Valentin ne voulait pas lâcher, ne voulait pas craquer devant son public, sur son court, comme il a l'habitude de dire. Là, il a du mal à récupérer. Il va parler dans quelques secondes au micro de Marc Maury. Mais en tout cas, c'est une superbe victoire. Je crois que c'est encore plus fort, peut-être, que ce qu'il a vécu face à Lorenzo Musetti, parce que celle-là, je pense qu'il avait encore dans les jambes le match face à l'Italien. Et finalement, donc, avec son courage extraordinaire, il vient à bout d'Hubert Hurkacz. Incroyable victoire donc de Valentin Vacherot. L'aventure continue pour le Monégasque. Il y a 20 ans, son demi-frère avait perdu en 8e de finale de Monte Carlo face à Roger Federer. Il nous l'avait dit hier en conférence de presse, moi, ce sera Hurkacz. Et bien voilà, il vient d'avaler Hubert Hurkacz, qui, croyez-moi, vaut bien mieux que son classement actuel. Il n'avait pas gagné un match depuis l'Open d'Australie. Moi, j'étais bluffé par son niveau de jeu. Et voilà, on va écouter Valentin Vacherot au micro.
Comment ça se passe dans ta tête? Parce que tu restes calme dans les moments qui ont été un petit peu difficiles. Il y en a eu quelques-uns dans ce match. Comment tu fais pour justement garder cette concentration-là?
Ouais, c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai bien commencé un peu la pression d'hier qui a tombé au moment de la victoire. T'arrives un peu relâché, et donc je fais un bon début, un début de match correct.
4-0,
oui, mais c'est surtout, il rate beaucoup, il me donne beaucoup, et derrière, il se met à beaucoup mieux jouer. J'ai un peu de mal à trouver ma longueur. Tout ça, du coup il arrive à dicter. Je prends pas le premier set, j'ai un petit coup de mou début du second, mais bon, avec le public et...
Kostova!
Et tu changes un petit peu de tactique. J'ai vu que tu montais, il y a eu quelques volées qui ont été décisives aussi. Dans le troisième set, c'est ce qui est un peu de permettre de passer devant.
Ouais, j'ai essayé d'éviter un peu de mettre mon jeu de terre battue tout le temps, d'essayer de commencer à décaler et taper plus fort. Essayer de monter parce que au début de match je suis pas mal monté, ça m'a pas beaucoup réussi. Si j'avais su à ce moment-là.
Imagine c'est un énorme bonheur, mais t'as pas envie de t'arrêter là, tu vas rencontrer Dominor en quart de finale. Et t'as envie de te faire plaisir quoi.
Je savais pas que c'était.
Je te dis.
Non bah très. Impatient déjà d'être demain, profiter de la victoire ce soir et bien se préparer demain.
Voilà, c'est la fin de l'interview et je suis devant quelques fans. Je vais les interroger parce que vraiment ils ont fait le spectacle. Je suis avec Leonardo Lubici, je pense que c'est le fils d'Ivan, c'est ça?
C'est ça, c'est bien ça.
Comment, t'as plus de voix? T'as encore un peu de voix?
J'ai pas les mots, c'est incroyable. ce qu'on est en train de vivre avec Val. Franchement, on est tous très très fiers de lui et on est juste très contents de pouvoir vivre ce moment avec lui. Par exemple, à Shanghai, on était tous ici, on regardait tous ces matchs ensemble, mais là, on est presque sur le court avec lui, donc c'est vraiment top.
Il y a des slogans que je comprends pas, c'est le canon, c'est quoi le canon ?
Le canon, c'est quand il claque un service à 225. Quand il claque un service coup droit, on chante le canon, parce que c'est son canon.
Vous avez d'autres slogans, là, vous, avec les maillots de l'AS Monaco, c'est quoi vos slogans, alors ?
C'est allez Valentin, c'est ça.
C'est dingue Valentin, c'est dingue, c'est tout.
Il vous bluffe ?
Mais non, il nous bluffe pas, c'est son niveau minimum.
C'est quart de finale minimum.
C'est quart de finale minimum. Vous avez pas compris encore qu'il allait au bout.
Voilà. Je sais pas s'il est au bout, en tout cas je peux vous dire qu'il sera top 20 lundi. Et ça c'est pas mal.
19 lundi, oui. L'information est exacte.
Merci. On va aller laisser. Ils vont savourer, ils vont retrouver leur voix. Mais en tout cas, on a vécu un moment magique ici sur les cours de Monte Carlo Country Club. Je sais pas pourquoi il m'appelle Nelson, je m'appelle pas Nelson, mais c'est pas grave. Voilà, c'était assez extraordinaire de vivre la fin de match du Monégasque, Valentin Vacherot. Donc il nous régale parce que ce qu'il a fait à Shanghai, ça a dépassé tout. Et ben là, on a l'impression qu'il peut aller au bout, peut-être pas, parce qu'il se passe un truc extraordinaire ici à Monte Carlo. Va falloir qu'il digère tout ça parce que prochain match vendredi, donc fin d'après-midi heureusement, hein, match 4 bien sûr, vous en doutez, et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de spectateurs. Ce sera donc contre Alex de Minaur. Waouh, quelle affiche! S'il a encore un peu de jus, Valentin, il peut encore régaler ici sur les cours du Monte Carlo Country. Quelle aventure, quel match, et quel talent et quel courage ce Valentin Vacherot, parce que comme il l'a dit, il a dû quand même aller chercher loin pour tordre Hubert Hurkacz. Donc victoire à 21h30 de Valentin Vacherot. Évidemment, on va poursuivre, on va analyser les autres huitièmes de finale, mais convenez que celui-là, il était au-dessus de tous. Alors auparavant, évidemment, il y avait les sept autres huitièmes de finale, comme vous vous en doutez, et on va commencer par... Alors auparavant, il y avait les sept autres huitièmes de finale de ce tournoi monégasque. Et ce qui est amusant, c'est que la physionomie des matchs des deux cadors, à savoir Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, eh ben c'était la même quasiment, puisque tous les deux ont lâché un set sans qu'on soit véritablement inquiet pour eux. Alors pour Sinner, c'était quand même un petit événement, puisqu'il restait quand même sur trois victoires en Masters 1000 sans avoir lâché la moindre manche, à savoir donc à Paris La Défense Arena, à Indian Wells et à Miami. Il avait remporté son premier match assez facilement face à Hugo Humbert. Et bien là, il y a eu un petit couac, puisqu'il a cédé une manche face à Thomas Marach, 6-1, 6-7, 6-3. Il faut savoir qu'il aurait même pu perdre le deuxième set de manière plus sèche, puisqu'il s'est retrouvé distancé 5 jeux à 2 de manière assez rapide. Et ça coïncidait aussi avec une petite chaleur, le soleil qui faisait mal, qui tapait un peu sur le cerveau. Et alors je ne sais pas si c'est la théorie du coup de chaud, peut-être une petite baisse d'énergie, c'est ce qu'il a expliqué ensuite en conférence de presse. Mais il a même fait venir le kiné donc pour expliquer qu'il ne se sentait pas super, super bien. Mais finalement, donc, il est parvenu à retrouver son tennis avec le soutien du public de Monaco. Ça, c'est évident. Ici, on est sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin, mais on le sait. Quand les tickets sont vendus, c'est principalement à des Italiens qui viennent en voisin, parce que ce sont des vrais passionnés. Et ils l'ont vraiment aidé, hein, Yannick Sinner, à se remobiliser, à repartir de l'avant. Et on a même vu Sinner serrer le poing en direction des supporters italiens. Donc victoire 6-1, 6-7, 6-3. Pas vraiment d'inquiétude à avoir. Moi aussi, c'est peut-être une théorie un peu... je la tente. J'ai l'impression que Sinner quand même profite des conditions ici à Monaco pour travailler entre les jours, puisqu'il avait un jour off hier. Et on sait qu'il a tapé la balle avec Moïse Kouamé. Donc c'est pas des petites séances. Un peu à l'image de Sacha Zverev lorsqu'il s'était imposé à Bercy. On sait qu'il faisait du rab. Mais là, ça se justifie, puisque il faut réapprendre... Pas un autre sport, mais la terre battue est une surface qui est totalement différente. Donc il faut retrouver des automatismes, il faut travailler des choses différentes. Et peut-être qu'hier, il a fait un peu trop et il s'est retrouvé un petit peu en manque d'énergie aujourd'hui. C'est pas très grave, l'essentiel est là. Mais c'est un petit avertissement pour Yannick Sinner, qui va sûrement tirer les leçons de tout ça. avec son équipe. Alors, à noter que Darren Cahill n'est pas là, hein, contrairement à ce que j'avais dit, je crois, dans un podcast précédent. En quart, il jouera contre Félix Auger-Aliassime. Et là, c'est une belle perte de la part du Canadien, puisque il complète sa collection de quarts de finale en Masters 1000. Alors, un petit bémol, puisque cette qualification, elle est survenue après l'abandon de Casper Ruud. Et franchement, on est un petit peu inquiet pour Casper Ruud, parce qu'il s'est blessé au mollet droit au début du deuxième. Et franchement, le mollet, c'est pas bon. Alors, le kiné est venu, ils lui ont mis un gros bandage, mais tout de suite, on a vu qu'il pourrait pas insister. Il est inscrit à Barcelone, je pense qu'il jouera pas. Mais en tout cas, pour Félix Auger-Aliassime, ce sont des points. C'est un quart de finale. Ça se prend. Je rappelle qu'il est quand même 7e mondial. Donc, on cherche toujours à remonter au classement. Donc là, ce sont des points qui tombent. 200 points, exactement. On a hâte de voir ce qu'il va donner face à Yannick Sinner. En sachant que c'est la revanche de la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Donc, il y a quelques mois. C'était en indoor. Là, on est en outdoor. Tiens, pendant qu'on y est, on a eu l'occasion de discuter avec Félix Auger-Aliassime. Si vous n'avez pas suivi l'actualité sur le site RMC, sachez que Félix Auger-Aliassime jouera, en tout cas c'est son intention, jouera le qualifier, donc Canada-France, au mois de septembre. Et il nous a donné des indices très précieux sur le lieu de la rencontre. Alors ce sera soit à Québec, et là ce serait en salle, soit à Montréal, sur le site qui accueille le Masters 1000 et le WTA 1000. Peut-être pas sur le central, mais sur le court numéro 1. Qui est un peu moins grand, bien sûr. Donc en tout cas, il se bat pour... il est au cœur des discussions, ça se sent, et il est ravi de jouer ce match contre l'équipe de France. Et d'ailleurs, il nous a dit que si tous les joueurs français, tous les meilleurs français sont sélectionnés, sont d'attaque, ça peut donner une magnifique rencontre. Donc voilà, si jamais vous avez envie de passer des vacances au Canada et que vous ne connaissez pas Québec ou Montréal, mais écoutez, prenez vos billets. Et puis vous pourrez joindre l'utile à l'agréable en voyant des beaux matchs de tennis. On n'a pas encore les dates, bien sûr. C'est soit vendredi samedi, soit samedi dimanche. En tout cas, c'est la semaine d'après l'US Open. Voilà, je tenais à vous glisser cette petite info. On reste dans le bas de tableau avec deux succès attendus. Ceux de Joao Fonseca, qui a mis 6-3, 6-2 à Matteo Berrettini. Et puis Sacha Zverev, qui s'était fait des frayeurs au deuxième tour face à Garin. Sacha Zverev s'impose 6-3, 7-5 face à Zizou Bergs. Le Belge a peut-être gâché des occasions, mais en tout cas, c'est une belle affiche, hein. Zverev-Fonseca. Zverev était ravi de découvrir le jeu de Fonseca. Ils ne se sont jamais joués. Ça promet donc un bel affrontement sur le central vendredi en début de journée. Toujours là, on remonte un peu le tableau. Je vous parlais de Sinner Alcaraz. Oui, bah oui, j'ai un peu grillé l'étape. Alcaraz, donc lui aussi, a perdu un set. C'était contre Thomas Echeverry. Un premier set fulminant, flamboyant, 6-1. Et puis, petite panne de secteur chez Carlos Alcaraz. Mais là encore, il n'y a pas eu de gros dégâts, puisque après avoir perdu le deuxième 6-4, il est reparti d'attaque, il a très vite fait le break. Il s'est imposé 6-3 face à Thomas Echeverry. Echeverry, alors il y a une stat qui est terrible pour lui. C'était son 19e match contre un top 10, 0 victoire. Ouais, ça fait tâche et ça... Ouais, c'est pas si étonnant que ça quand on voit le jeu du garçon. À mon avis, il nous manque un gros coup vraiment pour claquer des perfs. Mais en tout cas, c'est un garçon qui est très très dur à battre sur terre. On sait qu'il a gagné Rio au mois de février. Donc Alcaraz qualifié, il jouera contre Bublik. L'étonnant Bublik qui à un moment détestait la terre battue. Et bien depuis son parcours à Roland-Garros l'an passé, il a appris à... Je sais pas, à l'apprécier, les subtilités, les amortis, et puis il va de l'avant et ça paye, puisqu'il a brisé l'HK en deux manches, 6-2, 7-5. Donc Bublik Alcaraz, ce sera un quart de finale assez intéressant à suivre. Ce sera en milieu d'après-midi. Le septième qualifié, c'est Alex de Minaur, qui s'est imposé donc sur le Cours des Princes face à Alexander Bloks, le jeune Belge qui sortait des qualifs, 91e mondial. Mais croyez-moi, celui-là, on va en entendre parler parce qu'il a vraiment un beau talent, il est très grand et sa balle va très très vite. Et croyez-moi, de Minaur ne s'est pas amusé, 7-5-7-6, il aurait même pu peut-être laisser plus de plumes dans la bagarre. Mais voilà, de Minaur avec son expérience, avec son jeu de jambes terrible, il est parvenu à éteindre le Belge. Mais vraiment, c'est un garçon, je suis sûr qu'on va reparler de lui heureux tennis belge, hein, au moment où David Goffin met un terme à sa carrière dans quelques mois. Eh ben, ils ont de la chance, les Belges, puisqu'il y a Zizou Bergs qui ne cesse de progresser, de monter au classement, et puis de Bloks, 21 ans. Vraiment, c'est l'avenir du tennis belge. Voilà donc pour cette journée des huitièmes de finale, qui a été, c'était un jeudi aussi, qui a été marqué par le forfait de Loïs Boisson pour le tournoi de Rouen. Je me permets d'en glisser quelques mots, parce qu'il se trouve que j'ai voulu... je suis allé à Beaulieu-sur-Mer pour voir si elle tapait la balle, jouer un peu l'inspecteur mène l'enquête, mais il se trouve qu'elle n'était pas du tout à Beaulieu ce matin, et j'ai même découvert sur Instagram qu'elle est venue faire un petit saut à Monte-Carlo pour suivre le tournoi. Elle a posté une photo du haut d'une terrasse où on a l'habitude d'interroger les joueurs lors de Media Day. Écoutez, je ne vais pas être très pessimiste pour elle, parce que j'avais discuté avec son agent il y a deux jours ici même, et il m'avait sous-entendu que Rouen s'arrivait peut-être un peu tôt, et puis Rouen c'est de l'indoor. Loïs, elle pense à Roland, et donc le prochain tournoi, le prochain objectif, c'est Madrid. Jonathan Danavegi m'a glissé qu'ils iraient très tôt à Madrid pour s'habituer aux conditions de jeu, parce que c'est vrai que c'est un tournoi qui est très particulier avec altitude. Donc pas d'affolement, mais c'est vrai que c'est un nouveau coup de canif, on l'a plus vu depuis trop longtemps là. Elle a repris l'entraînement, c'est la bonne nouvelle. Vous savez qu'elle a une vilaine blessure à l'avant-bras droit avec un mauvais diagnostic, et ça a pris beaucoup de temps donc pour guérir tout ça. Voilà, c'était la petite patte féminine de ce podcast. Je vous dis évidemment à demain pour des quarts de finale avec que du lourd, hein, vous l'avez compris. Il n'y a pas d'escroc, comme on dit dans ce Masters 1000 de Monte-Carlo. À demain, à bientôt, ciao.